Bonsoir et merci de votre fidélité à ce tout premier numéro de l'année de la Tribune de Presse. Nous sommes vendredi 13 janvier 2017 et je m'en vais saluer et présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année directement à Joachim Diana. Bonsoir.
Bonsoir.
Meilleurs vœux à vous.
Merci beaucoup à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous êtes éditeur du journal La Colombe, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Frédéric Thio, bonsoir et meilleurs vœux.
Merci, bonsoir, bonne année à vous, à tous Radio Capi. Oui.
Merci, vous êtes journaliste à la radio télévision par satellite RTBS 1, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Au téléphone, Alain Alamé, bonsoir et meilleurs vœux.
Bonsoir, meilleurs vœux à tous les auditeurs de Okapi Radio.
Vous êtes journaliste indépendant basé à Goma. Et bonsoir et meilleurs vœux aussi à André Mongou qui assure la mise en onde de ce numéro. Au cœur des débats, messieurs, les discussions de la CENCO avec la classe politique sur les arrangements particuliers en vue de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENCO a donné 4 jours à la classe politique pour vider la question de ces arrangements et parmi les avancées, une convergence en ce qui est de la formation du prochain gouvernement. C'est l'unique thème de cette soirée et je dis meilleurs vœux à vous, chers auditeurs de la Radio de la Paix, et surtout bienvenue à tous dans cette émission. Alain Irung, bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait la une de la presse écrite cette semaine ?
Bonsoir. Les quotidiens parus ce vendredi à Kinshasa reviennent sur les négociations au centre interdiocésain sur l'arrangement particulier de l'accord du 31 décembre pour définir les modalités de sa mise en œuvre. Le phare titre à la une, arrangement particulier, gouvernement de transition, 46 membres. Le journal rapporte qu'une nouvelle fumée blanche s'est échappée hier soir des installations du centre interdiocésain après celle du 31 décembre 2016. Après de longues tractations en commission, la taille du gouvernement de transition a finalement été définie, note le quotidien, ajoutant que la future équipe ministérielle devrait comporter 46 membres, soit 37 ministres et 9 vice-ministres. Revenons sur cet arrangement particulier à l'accord du 31 décembre. Le potentiel note qu'un consensus a pu être dégagé jeudi au centre interdiocésain entre la MP et le Rassemblement. Même si aucune indication n'est encore donnée sur la taille exacte du gouvernement, le journal indique que l'on sait désormais que le prochain exécutif, conduit incontestablement par un premier ministre issu du rassemblement, sera de taille plus réduite que celle du gouvernement Badibanga, qui compte 67 membres. Parlant d'un tout premier consensus trouvé par les partis en discussion sous l'égide de l'épiscopat catholique, Forum des As informe que les travaux vont se poursuivre ce vendredi 13 janvier et selon des sources proches de la médiation, plusieurs points sont encore en discussion. Un autre quotidien à lire sur cet arrangement particulier, c'est La Prospérité qui rapporte dans sa manchette « CENCO, consensus autour du prochain gouvernement ». La consoeur note que dans les heures et les 2 jours qui viennent, les différents délégués devraient mettre les bouchées doubles pour finaliser la rédaction de l'arrangement particulier consécutif à la nouvelle feuille de route politique. À en croire le journal, le partage des postes va concerner également la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, le Comité national de suivi de l'accord, ainsi que les exécutifs provinciaux, exception faite évidemment des mandats électifs. Terminons par la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Forum des As en parle, je cite, « La délégation de la RDC est arrivée dans la ville d'Oyem depuis hier jeudi. C'est dans cette ville gabonaise que les Congolais joueront dès ce lundi leur tout premier match contre les Lions de l'Atlas du Maroc. La Prospérité rappelant que cette CAN du Gabon commence déjà demain samedi à Libreville, premier match noté. Gabon, Guinée-Bissau. »
Merci Alain Irung. Dans l'actualité de la semaine, chers confrères et chers auditeurs, vous l'avez entendu avec Alain Irung, c'est le rendez-vous sportif qui attend l'Afrique et la RDC en particulier. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations commence déjà demain. Joachim, quelle lecture vous faites de cette 31e édition de la CAN qui se joue au Gabon d'ailleurs?
C'est une édition très relevée compte tenu du nombre de la qualité des équipes qualifiées. Mm-hmm. À part peut-être le Nigeria, qui est
un grand absent,
mais tous les grands de l'Afrique se retrouvent.
Et on dit aussi que la RDC est dans la poule de la mort.
Oui, poule de la mort avec la Côte d'Ivoire,
le Maroc
et le Mali.
C'est le
pas facile et se retrouvent aussi les grands entraîneurs et qui ont déjà gagné ne fût-ce qu'une coupe dans ce continent. Mais ça sera une coupe des surprises. C'est fort possible que le gagnant soit un outsider. Mm-hmm. Bon, je ne vois pas le Gabon, je ne vois pas la Côte d'Ivoire non plus.
Mm-hmm. Vous l'éliminez carrément pour tout.
Non, je ne le vois pas dans mes calculs, mais je pense, puisque j'ai dit qu'il y aura un outsider,
mm-hmm.
comme je ne le vois pas, ils peuvent venir par surprise. Mais en ce qui concerne mon pays, la RDC, bon, je me réserve le pronostic, d'autant plus que nous ne connaissons pas l'équipe totalement. Ce n'est pas l'équipe qui s'est qualifiée, ainsi de suite. Et en dernière minute, il a été. Bon, la décision de l'entraîneur nous a surpris par la mise en écart, par exemple, de Kage, qui pourtant pouvait apporter le punch en l'absence de Bolasie.
Mm-hmm.
C'est l'homme qui peut courir, qui peut y mettre la force, mais maintenant nous ne savons pas quelle sera la stratégie
de
Ibenge en éliminant un Kage, par exemple, au profit de Mulumbu,
et donc,
qui est presque fatigué et qui sort lui aussi de la blessure.
C'est aussi la surprise que nous réserve aussi Florent Ibenge.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Alors, Freddy Thieu, vous, comment vous avez analysé particulièrement le parcours des Léopards, surtout en termes des préparatifs?
Bon, c'est un parcours élogieux. On a vu les Léopards cette année.
Ils ont perdu 2-0 face au Cameroun.
Oui, bon, je considère ça comme étant un match d'entraînement, c'est un match amical. Et souvent, Ibenge déplace pas souvent ses vrais pions dans un match amical comme celui-là. Là, je crois en l'entraîneur, mais malheureusement, je pense que la bataille sera très rude par rapport à la dimension des équipes qui seront en présence. Je ne vois pas un favori dans notre poule. Voyons voir ce que ça va donner, mais je suis un peu pessimiste suite à l'absence de Mbolassier et je ne vois pas un joueur de sa trempe présentement dans notre équipe nationale faire ce que Mbolassier a fait devant les derniers matchs des éliminatoires. Mais bon, à Ibenge, mais également j'aurais souhaité également voir Dele Kambay encore ministre des sports, puisque en fait, il connaît bien la philosophie de l'équipe, il connaît bien comment l'équipe a été montée.
Vous n'avez pas confiance en Willy Bakonga?
Non, je ne suis pas contre Willy Bakonga, mais j'aurais bien voulu voir Kambay conduire cette équipe puisque c'est monsieur qui s'y connaît, c'est son domaine, il maîtrise bien le monde du football.
Mm-hmm.
En tout cas, sa présence aux côtés de Léopard nous donnerait beaucoup plus d'espoir d'avoir beaucoup plus de prouesses dans cette compétition.
Et Joachim disait ici que l'intégration de Youssouf Mulumbu, pour lui, c'est un peu quelque chose qui l'effraie un tout petit peu. Est-ce que vous êtes aussi effrayé?
Bon, pas vraiment effrayé. Mulumbu, c'est pas n'importe quel joueur dans notre équipe nationale. Là, il a
démontré. Joachim dit qu'il est déjà fatigué.
Fatigué, c'est son point de vue. Mais ça, vous savez, dans chaque match, les joueurs ont chacun leur comportement. Vous comprenez? Il y a ces matchs où vous avez un joueur comme Bolasie. Plusieurs fois, il nous a déçus, mais on l'a vu dans les
dans
matchs.
Avec vous,
c'est magnifique,
voilà.
En tout cas. Donc aujourd'hui, Mulumbu, je compte sur lui. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, jusque-là, je crois à la surprise Ibenge.
Mm-hmm.
Mais par rapport à l'obstacle actuelle, je ne donne pas trop de chances, mais je ne voudrais pas être un prophète de malheur pour notre équipe, puisque je suis congolais. Notre vœu que nous puissions gagner, à passer un trois quarts de finale et puis évaluer notre prestation.
D'accord, merci. Alain, comment vous analysez finalement cette CAN avec les éléments que vient d'apporter Joachim et Freddy? À votre niveau, est-ce que vous pensez que l'ossature de la RDC peut nous amener jusqu'en finale?
Le problème, ce n'est pas le stature. Le problème, c'est le moral que quand les joueurs, tous les joueurs, et aussi l'organisation, tout ce qui est autour de l'organisation, c'est ça le problème. Donc, moi, je crois fermement que les Léopards peuvent gagner et vont gagner. Je redoute la force de la Côte d'Ivoire, bien que mes prédécesseurs co-débatteurs ont essayé de négliger toutes ces nations qui sont des nations aussi de football dans le monde. Donc je crois, pour moi, le problème c'est la préparation, c'est l'organisation, que déjà vous voyez le ministre, son excellence Willy Bakonga, qui a rassuré que tous les moyens sont disponibles pour qu'il puisse organiser cela avec la complicité de la Fédération Congolaise de Football Association, je crois, FECOFA. Donc, pour moi, c'est le moral. Et aussi, c'est un appel que je peux lancer à tous les joueurs, aux sélectionneurs et à tout le monde qui peut participer d'une manière directe ou indirecte, de dire qu'il faudrait que les Léopards donnent encore un peu d'espoir à la nation congolaise qui est en train de passer une période difficile dans le cadre de frictions et des problèmes politiques. Donc avec leurs prestations, le Congo peut espérer encore avancer et être mieux représenté sur le plan international dans le cadre du sport, du football et de la grandeur du pays.
Merci. Alors, la deuxième actualité, on va commencer justement par vous, Alain. Comment se comporte le franc congolais au niveau de Goma? Parce que je dois rappeler que tout au long de cette semaine, la monnaie nationale, le franc congolais, s'était fortement dépréciée, arrivant jusqu'à 1320 francs le dollar à l'achat hier jeudi ici à Kinshasa. Et parmi les raisons qui ont été avancées, les monétaristes ont affirmé, entre autres, la rareté des devises. Et déjà, on a senti les conséquences ici à Kinshasa. Vous qui êtes à Goma, comment le franc congolais se comporte là-bas?
À Goma, c'est un peu trois taux qui sont applicables ici. Le taux d'échangeur de monnaie, des cambistes communément appelés, le taux officiel et le taux, je dirais, des commerçants. Ça veut dire nous sommes à 110, 120 pour tous les commerçants, 110 pour les cambistes et 130 pour certains coins de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, la monnaie nationale a fortement été dépréciée et on ne sait pas c'est dû à quoi. Et on s'est dit que l'État, dans son état actuel, devrait penser à ça parce que la monnaie, c'est l'une des tâches régaliennes de l'État et qui est aussi très complexe parce que ça touche beaucoup de facteurs économiques.
Merci beaucoup. Alors Joachim, êtes-vous d'avis avec les monétaristes qui ont affirmé que parmi les raisons évoquées par rapport à cette dépréciation, il y a justement la rareté des devises?
Oui, tout à fait. C'est en fait, dans l'économie, c'est l'élément élémentaire, la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande de dollars, et le dollar devient rare et il devient cher et le franc congolais se déprécie. Mais au départ de ça, pourquoi le dollar est recherché? À cause de l'incertitude politique, les gens cherchent la monnaie de refuge, ils cherchent à garder leur argent dans leur banque. Et en ce qui concerne ce qu'on a connu avec la BIAC, il y a une bonne partie des Congolais perdu confiance
dans le système bancaire,
ils préfèrent garder leur argent sous leur matelas. Et là, et pour le garder, il faut le garder.
J'espère que vous ne le faites pas.
Je n'en ai même pas pour garder. Nous vivons comme les ligablos au jour le jour, sauf les tuyaux ici qui ont des comptes en banque. Donc, c'est pour dire que tous ces pressions, vous avez à la base de tout ça, c'est l'incertitude politique.
Voilà.
Donc
au-delà de cette rareté du débit,
tout à fait, il y a l'incertitude politique. Vous savez, mon expérience, j'ai toujours constaté que toutes les fois qu'il y a réajustement politique, querelle politique et tout ça, l'une des victimes, c'est le franc congolais, c'est la monnaie nationale qui en souffre parce que l'argent, semble-t-il, n'aime pas de bruit.
Merci beaucoup. Alors, Freddy, comment vous expliquez, selon vous, au-delà des explications, des éléments qu'apporte Joachim, hier, déjà, le franc congolais a atteint la barre de 1320 francs à l'achat pour 1 dollar, mais aujourd'hui, subitement, on arrive à 1200. Comment vous expliquez cela, selon vous?
Premièrement, c'est que les gens attend un troisième gouvernement, donc aussi pas un des hommes après le dialogue de l'Union africaine. Vous savez, il y a de ceux-là qui préfèrent, comme a dit Diane, quelque chose de refuge, quoi. Donc vous avez vos francs et vous préférez acheter plus de devises. Et quand ça a la rareté, la loi de l'offre de demande de la question, c'est normal que le franc puisse se déprécier. Mais il y a aussi un élément aussi. C'est comme si au niveau de la Banque centrale, on ne sait pas faire la maîtrise un peu de cette dépréciation, puisque depuis qu'il nous témoigne, en tout cas, les francs congolais n'ont fait que se dépréciser pratiquement une année.
Malgré le fait que l'an dernier, on a injecté presque 50 millions de dollars dans ce système.
On l'a fait à trois reprises. Mm-hmm. Imaginez qu'on était à 90, 100, 120, je pense qu'il y a un problème. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait un peu des réajustements, il faut qu'il y ait un peu une sorte de troïka, fait de trouver un peu pour éviter un peu le pire, parce que nous craignons que d'ici mars, qu'on atteigne la barre de 20 millions. Et ce n'est pas intéressant pour le panier de la ménagère.
Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et tout de suite, on va commencer notre débat de ce soir. Mais d'abord, je vais rappeler à tous nos auditeurs qui nous prennent en cours que Joachim Diana, journaliste et éditeur du journal La Colombe, qui paraît ici à Kinshasa, Freddy Tuyoyo, journaliste à la radio-télévision par satellite RTVS 1, une télévision qui émet ici à Kinshasa, et Alain Alamé, journaliste indépendant basé à Goma, sont les invités de la tribune de presse que présente Berry Franklin Louchaka dans ce tout premier numéro du 13 janvier 2017. Nous voici entrés dans notre premier thème des débats, l'unique thème d'ailleurs des débats qui concerne les arrangements particuliers par rapport à l'application ou à la mise en œuvre de l'accord de la CINCO. Mais d'abord, une petite question avant d'aborder réellement ces arrangements particuliers. Joachim, quelle lecture vous avez fait de l'accord de la Saint-Sylvestre ? Rapidement.
Ah ben, cet accord-là, moi, je l'ai appelé une masturbation politique. Je ne comprends pas que les évêques qui sont partis du dialogue de la cité de l'OIA parce qu'il n'y avait pas inclusivité croient que à la CINCO, on a atteint l'inclusivité, il faut aller de l'avant.
Donc pour vous, l'inclusivité, le problème
mais il n'y en a pas. Dès le moment où, puisqu'à l'époque, on l'avait dit que l'inclusivité, ça ne veut pas dire unanimité. Du moment où le dialogue est ouvert.
Mais c'est le même argument qu'avait avancé la majorité.
Mais justement, à l'époque, il y a des gens qui refusaient eux-mêmes de venir. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent aller, mais les évêques bloquent. À la cité de l'OIA, il y avait même une ouverture, l'article 24, pour tous ceux qui pouvaient venir. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre bloque tout, avec 30 personnes. Et cet accord
vous attendez qu'il y ait combien de personnes?
Non, mais mon problème n'est pas là, mon problème s'ils étaient deux, mais qu'ils soient deux représentants.
Vous savez, mais il y a quand même des représentants de
Je vais vous donner un exemple. Nous sommes allés à Saint-City pour le dialogue intercongolais. Lorsqu'on est arrivé là, il y avait un seul dialogue. On arrive là-bas, on ne s'est pas mis d'accord. Accord cadre, il y a des gens qui ont créé l'ASD, ainsi de suite. Et enfin, on a estimé que Massir n'a pas très bien fait son travail. On nous a envoyé Mustapha Niass. Mustapha Niass a ramené les gens, ce qu'on a appelé le dialogue à format réduit. Dès qu'ils ont trouvé l'accord, on a rappelé tous les autres pour dire voilà, voici l'accord. Je pense que si les évêques s'étaient comportés comme ça, après avoir trouvé l'accord du centre interdiocésain, rappelez les 300 délégués qui étaient là-bas, voici l'accord auquel, enfin, nous sommes allés chercher l'inclusivité, avec les autres, nous sommes mis d'accord dans un comité réduit de 30 personnes, voici l'accord, et les autres l'auraient endossé. Merci. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? C'est parce que le partage, c'est là où nous allons en arriver.
D'accord, merci beaucoup. Frédéric, franchement, je vois déjà que vous n'êtes pas d'accord avec Joachim.
Franchement, c'est un peu un manque de respect criant au peuple congolais dire que c'est l'accord de la situation politique. Parce que cet accord a apporté la paix, cher ami. Toi et moi vivons à Kinshasa. On a vu comment la tension était montée d'un cran
dans le pays.
Oui, il y avait Kinshasa. Vous avez vu comment les gens les jugent par le 19 décembre. Et la CINCO est venue au chevet du régime pour faire asseoir les Congolais afin de trouver un accord consensuel. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas eu la CINCO au 19 décembre, imaginez-vous si on n'avait pas trouvé un accord le 31 décembre.
Pour vous, il y a eu l'inclusivité ou pas?
Mais mon cher ami, cet accord est plus inclusif puisqu'on n'aura pas 20 millions de signatures pour endosser un accord. Au moins, il y a eu des forces politiques significatives qui ont fait en sorte qu'il y ait la paix.
Mais la majorité a signé sous réserve quand même.
Non. C'est un mensonge grossier. C'est un mensonge grossier puisque moi, j'ai vu les signatures. Nulle part, on a mentionné sous réserve. Ça n'existe pas. Puisque la majorité a signé un accord le 18 octobre à l'Union africaine. J'étais présent. Et cet accord a fait qu'il y ait un gouvernement bâti aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait le MLC? Il y avait le Rassemblement? Est-ce qu'il y avait les figures emblématiques qu'on peut voir aujourd'hui à CINCO aujourd'hui? Je pense que dire que c'est la masturbation, ça c'est des insultes à l'intelligence congolaise et ce n'est pas normal puisque aujourd'hui,
tout le monde se retrouve en Tshisekedi, en Kabila, en Kamel et à la Senko. Les États catholiques ont une grande communauté à gérer. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet apaisement, il y a eu un peu de la calme, même si ça peut tout le monde rebondir. Donc dire que la situation en trois, il faut retirer ces mots-là parce que les gens qui vous suivent vous sont prêts à vous mordre les doigts. Donc, à mon avis, cet accord est porteur d'espoir. Cet accord ouvre la voie à l'alternance politique puisqu'aujourd'hui, on sait clairement qu'il n'y aura pas une tentative d'organiser un référendum. On sait que cette fois-ci, le président Kabila fera, va échanger le flambeau au soir de décembre 2017. Donc tout est fixé. C'est
pour
pas
vu qu'il y ait élection.
Il n'y a plus d'ambiguïté comme à l'Union africaine. On ne savait pas si référendum ou pas.
D'accord.
Mais aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on est là tout droit vers le chemin électoral.
D'accord. Merci pour vous qu'il y ait aussi cette élection.
Et nous croyons à la probité, nous croyons au bon sens de ceux-là qui ont signé cet accord.
D'accord. Alors, Alain, comment vous avez analysé cet accord? Vous avez entendu déjà cet antagonisme entre Freddy et Joachim?
Bien sûr, je crois que c'est normal qu'il puisse y avoir un antagonisme entre les deux sur le point de vue. Moi, je soutiens d'abord l'arrangement particulier d'abord et ensuite l'accord du 31 décembre. Ensuite, donc vous comprenez que ce sont des accords qui ont essayé un peu de résoudre le problème de la RDC parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas précises dans l'accord du 18 octobre et que l'accord du 18 octobre était ouvert à d'autres signatures, mais n'était pas ouvert à des amendements ou à des changements, à des modifications. Pendant qu'il y avait deux points de vue de la population qui était exprimé par des plateformes de partis politiques et qui n'étaient pas aussi représentés à l'accord de l'OIA, de l'OIA. Donc vous comprenez que c'est très important cet accord parce que actuellement on peut savoir qu'il y a un gouvernement de 46 ministres qui
sort
le premier ministre y compris. On peut savoir, il y a beaucoup d'avancées dans cela.
D'accord.
Et le problème n'est pas aussi l'inclusivité ou également l'unanimité, parce que dans un pays, le point de vue peuvent être divergents. Si tous ils s'accordent sur ces gouvernements et qu'ils ne soient pas à mesure de contrôler les chronogrammes, de savoir bien gérer la République pendant ces temps, qui sera opposant? C'est mieux qu'il y ait des gens qui se réservent et qui deviennent des opposants.
Merci.
C'est pourquoi on ne va pas rester à se dire inclusivité. Tout le monde ne doit pas s'accorder. On doit avoir des gens qui s'opposent.
Merci.
Et l'opposition n'est pas un problème.
D'accord.
Le président peut être investi pendant qu'il y a des opposants et il dirige.
D'accord. Alors, on en vient maintenant aux arrangements particuliers. Les travaux des négociations portant sur ces arrangements étaient centrés hier jeudi sur le gouvernement. À l'issue des travaux en plénière à huis clos des trois commissions, les parties prenantes sont tombées d'accord, notamment sur le profil du Premier ministre et sur la taille du gouvernement. Compte tenu des difficultés énormes que connaît le pays sur le plan économique et suivant l'impératif lié à la préparation des élections, il a été convenu que le gouvernement de transition soit composé au total de 46 membres. C'est ce que dit Christophe Lutundula, cadre du G7 et du rassemblement joint hier tard dans la soirée par Téléquipe La Mondo au sortir des travaux. Suivant.
Concernant le gouvernement, le profil du Premier ministre, ça s'est bouclé. On s'est mis d'accord sur un profil qui réponde à la fois aux critères constitutionnels et légaux d'accès aux charges politiques dans notre pays, tel qu'il se dégage de la lettre et de l'esprit de la Constitution et de la loi électorale, et puis aux critères spécifiquement liés à la gestion de cette période délicate qui nous conduit jusqu'aux élections. Il était question aussi de la taille du gouvernement. Nous avons convenu au total d'avoir, ministre et vice-ministre compris, un gouvernement de 46 membres. Et cela nous permet de tenir compte des ressources de l'État qui se sont drastiquement amoindries, de tenir compte aussi de l'objectif majeur de cette période qui est l'organisation des élections qui, elle, exige une mobilisation de ressources internes et externes importantes, tenir compte aussi de la nécessité d'arrêter la dégradation de la situation économique et financière du pays de manière que le gouvernement qui va venir puisse tant soit peu soulager la misère de la population dont les conditions de vie se dégradent de la manière inquiétante au regard du fait que la situation économique est une situation de profonde crise.
Par ailleurs, conformément à l'accord du 31 décembre, en son point 3.3.3, le Premier ministre sera présenté par le Rassemblement sous la signature du président du Conseil des Sages au chef de l'État pour nomination, eu égard de l'article 78 de la Constitution. Mais les modalités pratiques de cette nomination devront être discutées. Ce vendredi, les participants devraient se pencher notamment sur la clé de répartition des responsabilités, le chronogramme ainsi que les modalités pratiques de la mise en service du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Pendant ces temps, à l'ouverture des travaux mercredi, la CINCO avait proposé aux parties prenantes 4 jours de discussion pour dégager un consensus définitif. Suivant l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, dont les propos sont recueillis ici par Askin Zigbia Tayoro.
La CINCO vous demande de faire preuve de détermination, de bonne foi et de bonne volonté politique durant les présents travaux devant nous amener à doter rapidement cet accord de son outil complémentaire, à savoir l'arrangement particulier. Sans négliger la prise en compte des intérêts particuliers de vos composants, la CINCO vous recommande vivement de privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais qui veut aller rapidement aux élections et voudrait voir sa situation sociale s'améliorer. Pour sa part, la CINCO estime que 4 jours suffiraient amplement pour que ces travaux soient achevés, c'est-à-dire du 11 au 14 janvier 2017.
Merci pour ce dossier réalisé par Radio Capi. Première question à vous, messieurs. Comment vous analysez de manière globale ces travaux, Joachim?
Oui, avant de dire en une seconde pour dire que lorsque l'accord est signé le 31, il n'y avait pratiquement plus. L'attention, c'était le 19. Et le 19, mais on a vu les gens dans la rue. Ils ont trouvé un dispositif qui les a empêchés. Mais en fait, si les gens sont quand même signés, ils ont trouvé la limite. Et ils se sont trouvés leur impuissance de faire ce qu'ils voulaient faire le 19 et le 20. Ils se sont dit, allons-y, signons cet accord, parce qu'en fait, ils étaient perdants. Mais puisque...
Qui était perdant?
Mais ceux
le
qui,
Rassemblement.
Le Rassemblement.
Très bien.
Le Rassemblement a dit, pas de dialogue format Kabila. Il faut un dialogue conformément à la résolution 2277. Et il faut un médiateur international, il faut un panel. Mais aujourd'hui, à la CENCO...
Mais est-ce que c'est le président Kabila qui a convoqué le dialogue de
mais
la...
Tout à fait, c'est Kabila. Kabila a convoqué par ordonnance le dialogue qui a commencé à la cité de Luya.
Non, il a encouragé les prêtres.
Mais encouragé maintenant, c'est par parole. Le même Kabila qui signe l'ordonnance, on n'y croit pas. On dit pas de dialogue à format Kabila. Mais maintenant, par la simple parole, il envoie les évêques et ces gens-là passent.
Très bien, allons-y.
Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas faire. C'était le chantage. Le tension dont parle Freddy, c'était un chantage qui ne pouvait rien pour.
D'accord, très bien. Alors, allons-y maintenant aux travaux maintenant actuels des arrangements particuliers.
Vous savez que cet arrangement particulier, je me demande si les gens avancent parce qu'il faut trouver la paix, cela s'appelle mettre du médicament sur une plaie non infectée, non nettoyée. Lorsque l'accord dit qu'on va, ils vont se partager, donc il y a d'un côté ceux qui ont participé aux travaux de la cité de l'OIA,
oui.
Donc ils ont 50%, ceux qui viennent, c'est-à-dire le Rassemblement et FRC, 50%. Alors, ce qui veut dire que le fait de signer un accord avec l'AMP, vous devenez de l'AMP. Vous êtes de la majorité.
Mais il y a quand même une conception quand même.
C'est une cohabitation.
Mais c'est ce que j'ai dit justement. C'est ce que je me suis toujours dit, c'est ça que j'appelle masturbation. Lorsque les autres, là, l'UNC et tout ça, signent avec la majorité, parce que vous avez signé avec eux, vous êtes dans la cohabitation.
Et maintenant, lorsque la même MP signe avec le rassemblement reste indépendant.
Donc pour vous, vous pensez carrément que dans cet accord, dans cette signature, le rassemblement reste perdant, c'est ça?
Non, je ne dis pas que je reste perdant. Je ne vois même pas qui est perdant, qui est gagnant. Mais mon problème...
Mais c'est le but même de la négociation.
Mais mon problème, c'est celui-là. Pourquoi on estime que ceux qui ont signé à la cité d'Oya sont devenus la majorité? Et lorsque la même majorité signe avec ceux qui sont le rassemblement, ils ne deviennent pas majorité.
Très bien.
On doit me dire quel est cela. Alors, puisque si on doit partager...
Parlons maintenant du coup des arrangements politiques.
Je suis dans l'arrangement. Mm-hmm. Lorsqu'on dit que ceux qui de la côte ont signé l'accord de l'UIA, on se calme pour ça, c'est-à-dire la majorité et l'opposition signataire de l'accord de la cité d'Oya, ils ont 50%, le rassemblement 50%. Ce qui veut dire quoi? Que la majorité va se retrouver avec 25% de participation dans ce gouvernement.
Mm-hmm.
Ce qui n'est pas juste. Si les gens de la majorité vont signer parce qu'il faut aller de l'avant, moi j'estime que c'est se mettre la corde sur le cou. Personne ne va contester que Kamere n'est pas opposition. On va me dire aujourd'hui que Kamere n'est pas de l'opposition? Qui va me dire aujourd'hui que Bitakwira n'est pas de l'opposition?
Très bien. Alors,
on va le construire. Mais aujourd'hui, eux, ils vont prendre 25% dans le quota des signataires de l'accord de l'UIA. La majorité va se retrouver là-bas avec 20. Qu'est-ce qu'il y a avec? La majorité ne pourra pas satisfaire toutes ses ambitions. Il y aura des gens frustrés. La majorité. On est en train de parler le temps de réunion du côté de la majorité.
Je vous redonne la parole. Freddy, comment vous analysez de manière globale ces travaux sur l'arrangement particulier?
Je pense une seconde, verrez, pour le poids de juste, disons, apparemment, c'est comme s'il trompe sa propre conscience. Puis il fait quelque chose, c'est comme s'il ne veut pas Kinshasa. Il sait comment il y a eu les rapports des forces ici. On sait qui gérait la ville et qui ne gérait pas la ville. Alors, par rapport aux agents particuliers, je note que le MLC est toujours de cœur avec cet accord, puisqu'il participe. Il avait fait des propositions pour les arrangements. Et d'ailleurs, il
même s'ils n'ont pas signé.
Même s'ils n'ont pas signé, mais ils ne remettent pas en cause le contenu de l'accord. Raison pour laquelle il demande à ce que le rassemblement puisse vite désigner le Premier ministre.
Et certains analystes trouvent ambigu la position du MLC.
Non, c'est pas ambigu, c'est normal, c'est une question de bon sens. C'est là où j'aurai le point de vue, puisque on peut pas être juge parti, être arbitre, en même temps être juge sur le terrain. Et là, c'est encore discutable, on peut en parler. Mm-hmm. Par rapport aux arrangements, je note que les cons se trouvés par rapport à la tête du gouvernement, 46 membres, et le profil est bien défini. Je pense que le rassemblement a des gens qui répondent quand même à ces profils, être à des propriétés morales, avoir l'expertise, connaître bien les questions sociales de l'État. Et je pense que dans ce groupe politique, il y a des gens qui peuvent un peu répondre à ce critérium-là. Mais également, vous avez dit encore là que je n'ai pas saisi.
Je vous ai demandé les arrangements particuliers. Comment vous avez analysé de manière globale ces arrangements particuliers?
De manière globale, je note qu'on aura bientôt un gouvernement à un taille réduit par rapport à celui qui est là et qui joue d'éléphanté. Je sais que ce n'est pas quand même normal.
Et même la
rapport au contexte économique, social actuel dans notre pays, il faut quand même une équipe très réduite à même de faire face aux impératifs qui se présentent aujourd'hui.
D'accord. Alain, comment vous avez analysé les travaux sur les arrangements? Comment vous analysez ces travaux sur les arrangements particuliers?
L'échec de l'accord du 31 décembre, là c'est vrai, ils avaient échoué là-bas, mais aussi avec les résolutions qui vont en sortir, ils pourront faire buter le pays à un certain cas ou encore à un autre problème, parce que il faut refonder le parlement, le gouvernement. Il faut restructurer la CENI pendant que la CENI est en cours d'opération et qu'il est guidé sous les orientations des personnalités qui, si une fois changées, ça peut occasionner encore des retards d'organisation sous le plan logistique institutionnel. Il faut revoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ça aussi c'est en retard. Tenant compte du temps qu'il y a, le gouvernement devra être mis en place, investi, pendant que la session parlementaire prend fin le 15, et qu'il faut encore une autre session extraordinaire en mars, donc vous voyez que
avant
ça
mars,
va
extraordinaire. Oui, extraordinaire avant mars, oui.
au moins trois mois, et ça sera un 3 mois de retard qui peut-être ne sera plus récupéré après décembre 2017. C'est aussi les risques de ces arrangements. Mais également, on peut les saluer parce que on trouve l'inclusivité dans ces arrangements. On sait que l'opposition en RDC a compris qu'il fallait qu'il aille à la paix parce que la majorité en RDC est à la fois majorité présidentielle et majorité parlementaire. Et je félicite l'opposition qui était parvenue à faire une pression au point d'avoir un gouvernement de cohabitation ou de coexistence. Donc, il y a quelque chose à croire, mais nous craignons que le gouvernement et le mécanisme mis en place ne puissent nous permettre d'organiser encore les élections à la fin de 2017.
D'accord, merci. Alors, parlons mais un peu de tout le temps qui reste, parce que nous sommes en janvier 2017, et théoriquement, selon l'accord, au 31 décembre 2017, le président Kabila va passer le flambeau au nouveau président élu. Est-ce qu'en ces temps records, 12 mois ou 11 mois et demi qui nous restent, on est capable d'organiser les élections et que le président Kabila puisse passer le flambeau à un autre président qui sera élu, Joaquim?
Et c'est là, j'ai dit, le côté masturbation, parce qu'à l'accord de la cité des
Nuits... Vous en tenez à ce moment?
Oui, je m'en tiens. Il y a Thierry qui me demande de le dire, alors que ce n'est pas lui qui a la direction des débats. Voilà comment il
le sent.
Il se croit tout permis.
D'accord.
Même les débats qu'il ne mérite pas, lui, il donne les ordres retirés. Bon, c'est pour dire que... comment on va, pendant ce temps, on doit mettre en place un nouveau CESAC. Je vais vous donner des exemples.
C'est ce qu'a relevé tout à l'heure.
Constitutionnellement, le CESAC a un mandat de 4 ans ou 5.
4 ans.
Mm-hmm. Bon, mais maintenant, le CESAC qui sera fait dans le cadre de la transition doit s'arrêter dans le cadre de la transition, ne doit pas déborder la transition. Vous voyez que les gens n'ont pas beaucoup de plus. J'entends ici le Tundura qui dit atténuer un peu la situation de la population. Mais j'ai entendu quelqu'un d'autre du G7 qui a dit que la primature qui sera issue de cet accord de la Saint-Sylvestre, ce n'est pas pour rendre service au peuple. Ceux qui veulent arranger les problèmes du peuple doivent attendre les élections parce que dans ce gouvernement, on ne pourra rien faire.
Mais l'objectif est clair, c'est organiser les élections.
Mais justement, organiser les élections. On demande de réformer la CENI. Vous savez ce que c'est que ça nous prend comme temps lorsqu'il faut...
Donc pour vous, organiser les élections, que le président Kabila passe le flambeau à un autre président, c'est utopique en décembre 2017.
Mais d'abord, on demande là tout près, on se focalise sur cet article parce qu'il faut respecter la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts de l'opposition, on peut violer la Constitution. Et vous l'avez fait dans votre analyse, l'article 78 de la Constitution. C'est un article qui dit le premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire. Mais aujourd'hui, il va à l'opposition qui a quelle majorité?
Mais il n'y a pas d'élection, monsieur.
Mais alors, quand il n'y a pas d'élection, on aurait fait
la
laissez-moi parler, vous n'avez pas la direction.
Vous savez, quand vous êtes
un chrétien, vous dites que quelqu'un a péché, vous lui trouvez la sanction dans la Bible. Lorsque quelqu'un n'a pas organisé les élections, vous dites que c'est une faute par rapport à la Constitution. Mais trouver la réponse dans la Constitution,
très bien.
Vous ne dites pas brûlons la Bible parce que les gens ont péché.
Ok, Freddy, en ces temps-ci, en 12 mois pratiquement, parlons du temps, tout ce qu'il faut faire, réformer la CENI, réformer le CESAC, etc., et organiser les élections, et que le président Kabila passe le témoin à un autre président élu, est-ce que c'est réaliste selon vous?
C'est réaliste, c'est tout dépend de la volonté politique.
D'accord.
Diane a dit quelque chose ici, c'est très important. Mais est-ce que, pourquoi il n'y a pas eu l'élection 2016? Qui doit prévoir les résultats pour les élections 2016? C'est pas le pouvoir actuel. Il n'y a pas d'élection. On a vu la Constitution. Et nous dépassons les limites de mandat au 17 décembre. Mais il faut trouver un compromis politique pour gérer ensemble, pour faire la congestion. Ce qui est normal, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant au niveau de la CENCO. Puisqu'il n'y a pas
mais
eu
pourquoi demander le respect de la Constitution?
Bon. Mais ce respect.
Puisque vous êtes au centre
de la Constitution. Commençons par vous qui gérez le pays. Puis c'est vous qui avez la commande.
Là, on est tous des journalistes.
On a tous compris qu'il y avait manque de vote politique pour qu'il n'y ait pas élection en 2016. Et ça, c'est connu, on a déjà évolué. Et aujourd'hui, il faudrait donc gérer ensemble, puisque vous avez dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est comme ça
qui a dit ça.
Non, non, c'est
quand vous avez refusé le gouvernement, rapidement, on n'a pas beaucoup de minutes.
On a évoqué la question.
Quand vous avez refusé le calendrier, c'est pas manque d'argent.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Vous avez refusé le calendrier, pas manque d'argent.
On a déjà évolué, chère Diana. Aujourd'hui, il est question de céder une part de votre pouvoir pour qu'on puisse assurer réellement qu'il y a une volonté politique d'aller aux élections.
D'accord.
La raison pour laquelle c'est le partage, c'est la congestion. Et vous avez dit par rapport à la forme de la CENI, on n'a pas de réforme totale, partielle, que chaque composante qui estime que son membre qui est dans la CENI ne répond plus à leur législateur, on peut le changer. Là, si elle soutient de la majorité ou de M. Marine Bolo, il ne peut rester. Mais les gens UDPS, G7, UNC, quand même, s'ils estiment en train de le nôtre, de répondre plus à ce que nous attendons d'eux, on peut le retirer.
Donc pour vous, c'est la
CENI politique continue.
Mm-hmm.
Donc il n'y aura pas d'intérimement encore.
Très bien. Alors pour vous, c'est la volonté politique qui détermine la passation du pouvoir en, 2000, en décembre 2017.
Oui. Très bien. Pendant que nous parlons, l'enrôlement se poursuit.
D'accord.
On aura une fiche électorale au mois de juillet et trois mois après pour convoquer l'électorat et il y a la passation du pouvoir. C'est bien au mois de décembre.
D'accord. Alors Alain, on a moins de minutes avant la fin de notre émission. Très rapidement, vous avez souligné justement cet élément, ces facteurs temps pour l'application de cet accord. Selon vous, est-ce que c'est toujours réaliste selon la volonté politique ou c'est utopique au regard des éléments que vous avez vous-même apportés? Très rapidement.
Oui, c'est réaliste si nous avons deux hommes d'État, des hommes qui pensent à l'avenir de la population, au bien de la République, à la République, à la chose publique, au bien-être de la population et du peuple congolais. S'il y a des gens comme ça, nous allons parvenir à ça. Mais s'il n'y en a pas, on ne parviendra à rien, absolument à rien. Ça sera toujours des situations, des dialogues en dialogue, dialogue à dialogue en dialogue. Parce qu'il y a aussi d'autres gymnastiques financières. Il faut avoir de l'argent, il faut financer, il y a aussi les temps. Et puis nous sommes dans un pays qui a des coins le plus enclavés. La communication routière n'est pas garantie, la communication aérienne n'est pas garantie. Il y a des coins qui sont enclavés et donc c'est encore difficile de l'assurer maintenant, surtout qu'on va encore revoir le gouvernement.
D'accord. Alors, très rapidement, en guise de conclusion, pensez-vous que cet accord peut finalement nous permettre aux Congolais de passer à l'assurement au pouvoir?
Oui, ça peut permettre si ceux qui sont délégués dans le mandataire, ceux qui sont là-bas, se donne au travail sans répit, qu'il travaille pour le bien du Congo, qui rattrape au lieu de faire couler les sangs, que c'est maintenant l'occasion pour nous de rebâtir le pays et de voir si la démocratie peut être acceptée, de refuser l'affaire de la constitutionnalité. La constitution a été torpillée, a été violée. Pourquoi tenir l'article 78, tel article? C'est en intégralité, c'était violé. Nous sommes dans un régime
sous-génériste,
un régime propre à son genre. Il n'y a pas question de nous distraire, de faire
des dialogues selon la constitution.
Le travail pour la paix du pays.
Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est votre conclusion, Joachim. Vous avez la parole. C'est déjà une transition que vous avez. Oui. Vous avez volé les mots pratiquement. Vous avez volé la parole pratiquement à l'ami. Dites-nous en guise de conclusion.
Oui, ma petite conclusion est que les gens, tous sont passés, la majorité qui était distraite. L'opposition s'est mise à refuser tout ce qui est. Vous vous souvenez de la plénière de l'Assemblée nationale, où nous ne participerons à aucune plénière qui a à l'ordre du jour la préparation des élections. Les gens qui veulent aller aux élections. La séance où il y a eu des sifflements, ainsi de suite, et ils ont refusé
non,
le
pour vous, tout repose
ils ont refusé le ressentiment, ils ont refusé le premier calendrier, le deuxième, le troisième. L'objectif, c'est quoi? C'est arriver à ce qu'on n'ait pas les élections au-delà. Puisque les élections n'ont pas eu lieu au-delà, on va chercher la sanction. Je ne sais pas quelle constitution qui dit que lorsque une institution de la République a violé la constitution, c'est l'opposition qui est juge. Je ne sais pas dans quelle disposition nous avons une cour constitutionnelle.
Alors très bien, maintenant, est-ce qu'avec cet accord, c'est ça la question, est-ce qu'avec cet accord, on peut passer à l'alternance politique en décembre 2017?
L'alternance d'abord. Je ne veux pas qu'on parle de l'alternance maintenant. Puisque en 2006,
rapidement, on va
je termine par là.
Il reste
en 2006, si Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections, il y aurait alternance. On n'aurait pas attendu deux mandats de Kabila après. En 2011, si Tshisekedi avait gagné, il y aurait alternance. Les gens ont fait de l'alternance un problème politique, un problème de la fin de mandat.
Merci beaucoup. Alors, Freddy, en guise de conclusion, est-ce qu'avec cet accord, vous pouvez être sûr de pouvoir aller aux élections et
que le président Kabila passe le témoin à un autre président élu?
Je crois que tout est fonction de bonne foi, tout est fonction de la volonté politique de nos dirigeants. L'accord est là, c'est une charnière, ça ouvre une charnière pour l'alternance. Donc si seulement aujourd'hui, on signe les arrangements particuliers, on a un premier ministre qui dit c'est dimanche, on convoque une extraordinaire avant cette démarche, on a un nouveau gouvernement, je pense, avec un peu de volonté, puisque ce n'est pas l'argent qui manque au pays, ce n'est pas la logistique qui manque au pays. Nous avons les partenaires au niveau de la CENI qui peuvent nous doter de tous les éléments pouvant nous permettre que nous puissions avoir les élections d'ici fin décembre. Donc, je pense qu'à mon humble avis, que nous puissions avoir le sens élevé de l'État, le sens républicain pour le bien de l'intérêt général.
Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir suivi cette tribune de presse très animée par Joachim Diana, Freddy Thiorio et Alain Alamé. Merci à vous tous de nous avoir accueillis chez vous. C'est fini pour ce soir. André Mongo était à la mise en onde. Alain Irung a coordonné cette émission supervisée par Martin Sebujangwe. Berry Fonklenouchaka vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans Dialogue entre Congolais et vendredi prochain dans la tribune de presse. Remarquez, suggestions, envoyez-nous un message plutôt à dec@radiocapi.net. Bonne soirée et bon week-end à vous tous.